Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine. Ni de pain, ni d'eau.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Alex Croquet, qui est venu de Wetigny, dans le Nord, près de Lille, pour nous faire goûter aux saveurs du pain, parce que Alex Croquet, c'est un fou de pain. Fou, ça c'est sûr. De pain, c'est sûr aussi. Et ce passionné, ce chercheur en pain, nous fait partager sa passion. Et là, qu'est-ce que nous écoutons, Alex Croquet?
Alors, nous écoutons Handel, Water Music, et c'est Jean-Claude Malgoire, qui est à l'atelier lyrique de Tourcoing. J'écoute beaucoup de musique dans mon atelier.
Alex Croquet, le pain, qu'est-ce que c'est?
Alors, le pain, c'est l'association de la farine et de l'eau. Quand ils se rencontrent, ben, l'un qui est liquide et l'autre qui est solide va créer un corps semi-pâteux. Et un corps semi-pâteux, c'est la capacité à recevoir le vivant et à s'exprimer dans l'espace. C'est ce qui va permettre aux alvéoles, qui va être la mémoire de la respiration du levain ou des levures, qui va s'inscrire dans la pâte. En rencontrant deux matières avec des qualités mécaniques différentes, elles vont apporter leurs qualités mécaniques chacune à l'un à l'autre. Et c'est grâce à ça que la vie va s'exprimer dans cet espace.
J'aimerais que vous voyiez le bonheur qu'a Alex Croquet à parler de pain. Alors, on écoute la water music parce que donc, on dit la farine et l'eau. Mais alors, l'eau a un lien particulier avec vous.
Ah oui, bah, l'eau, c'est une histoire déjà de naissance, parce que je suis né déshydraté. Après, ce qui est amusant, j'achète cette boulangerie en 91. Elle s'appelle la boulangerie Bellefontaine, le nom du propriétaire. Je m'intéresse de plus en plus au pain, à ces matières, qui sont deux principalement. On peut parler du sel, mais les deux principales sont l'eau et la farine. On peut faire du pain sans sel. Et je me passionne pour l'eau. Parce que vu que je travaille en eau pure, osmosée, tout le monde me dit une eau pure, c'est une eau morte. S'il y a de l'eau morte, je me dis il y a de l'eau vivante. Par contre, ça, on ne nous en parlait pas. Les techniciens ne me parlaient pas d'eau vivante. Donc j'ai acheté tous les livres, parce que l'eau est omniscience. Donc j'ai acheté physique, chimie, biologie, et aussi
mythologie.
Bachelor, pour la poésie de l'eau. J'ai tout acheté, et tout était intéressant. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu avoir une eau vivante qui ressemble à celle de la nature. Donc j'ai fait faire une rivière artificielle en céramique par un sculpteur fontainier. Donc on n'a pas de robinet dans l'atelier. Hein. Toute l'eau passe par cette rivière, parce que l'eau, c'est la deuxième matière du boulanger. Et cette eau, le jour où j'ai pris, pareil, j'ai la passion des pierres semi-précieuses. Un jour où je rentre dans un magasin de semi-précieuses, je prends une pierre taillée, un cristal de roche, et j'ai pris le symbole de l'eau, j'ai pris l'icosaède de Platon. Et un jour, j'ai une jeune fille chinoise qui avait un master de biologie, elle se présente à la maison pour travailler. J'avais pas trop envie de la prendre, je sais pas, j'hésitais. Et puis je lui demande de donner son nom, elle s'appelait Miao, et elle me l'a écrit en calligraphie sur une feuille de papier que j'avais dans mon atelier. Et c'était son nom, c'était le symbole de l'eau vivante, écrit 3 fois en pyramide. Et ça veut dire en chinois océan, et océan c'est connaissance.
Et vous avez sur le fronton de votre boulangerie accroché la phrase d'Épicure, mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau.
Non,
pas encore.
Mais par contre, mon logo, qui est l'association de Alex et du C de Croquet, c'est le symbole de l'eau vivante. On l'a fait avec un designer. Quand il a rassemblé les deux noms, je lui ai dit c'est l'eau vivante. Et je lui ai montré. Vous voyez que ça continue. Donc voilà, j'en oublie, mais toute ma vie est bordée, je suis toujours jamais très loin de l'eau. Ou on disait que j'étais un être lunaire, souvent. Croquet, c'est un être lunaire, mais la lune est l'astre de l'eau.
Mais vous êtes aussi très proche de l'eau et du vin.
Ah ben, les vignerons, quand j'ai rencontré les vignerons dans ma démarche de la recherche sur la fermentation, c'est ça qui a créé la relation, parce que eux, c'est une fermentation liquide et moi, c'est une fermentation solide. Mais bon, ils sont tellement proches. Et ils sont venus me voir, et c'est grâce aux vignerons que j'ai su mieux faire mon pain, parce qu'ils avaient une façon de déguster, de détailler, à la barrique, j'ai pas ouillé, où il y a de la réduction. Mais comment on peut goûter aussi profondément une matière qui est leur travail, qui est leur vin. Moi, je goûtais mon pain, il était bon ou pas bon, mais j'allais pas si loin. Et je me suis rendu compte que les vignerons, ils avaient une approche de la dégustation qui était incroyable pour moi. Et c'est grâce à eux que j'ai amélioré ma façon de déguster le pain, parce que c'est le goût qui fait la technique, et ça doit pas être la technique qui fait le goût. Et ça, faut le temps pour le comprendre. Et c'est en dégustant, je dis, ah, trop le goût de levain. Ah, le levain, il s'assoit sur mon pain. Donc c'est parce que j'étais tombé amoureux du levain, donc ça me dérangeait pas pendant une période, mais...
Amoureux du levain, hein, vous avez bien dit.
Ah oui, j'étais amoureux du levain, mais complètement fasciné, passionné.
Alors pourquoi cette passion pour le levain?
Ah bah, quand on a travaillé toute sa jeunesse, moi j'ai commencé en 82, je m'installe en 91. Je travaille à la levure au début, je fais pas de levain. Mon premier levain, bah attention, c'est vous mettez de l'eau de la farine, vous voyez qu'il y a des bulles, ça s'exprime, ça prend du volume, il y a des parfums. Vous remettez à nouveau de l'eau de la farine, parce qu'un levain, faut le nourrir plusieurs fois, et vous voyez qu'il s'épanouit, qu'il gonfle, qu'il attrape des, il y a même des mousses différentes. Il y a des mousses qui ont des caractères ocre, nacrés. Il y a des mousses neigeuses. D'ailleurs, souvent le levain quand il est au top, c'est comme un sommet de montagne, il y a des petites mousses neigeuses très blanches. Et je sais que cette image qui est complexe, parce que ça va faire des mousses avec des couleurs différentes, avec des tailles de bulles différentes. Je sais que mon levain est complexe, qui est pas trop homogène. C'est important, la complexité, parce que l'équilibre dans le vivant, c'est la complexité. Et là, je regardais les levains, mais j'ai tellement fait de sortes de levains, et je continue, hein. Les levains qui vivent dans l'eau, comme en Italie, pour faire le Pantone, ça, c'est passionnant. Ça, c'est l'expérience que j'ai faite il y a 10 ans. Mes premiers levains avec l'eau de puits, avec, l'eau pure. C'est pour ça que j'étais arrivé à l'eau pure. Parce que dans l'eau, il y a le chlore. Le chlore est un antibactérien. Comment on peut mettre de l'eau chlorée dans un levain? On est déjà dans la sélection. Si on met du chlore dans son levain, on va choisir des bactéries chloro-résistantes. On est déjà dans la sélection. Il faut pas sélectionner. Parce que quand tout le monde s'exprime, c'est là qu'on a la boucle aromatique. Parce que le pain aime la rondeur.
Alors, à propos de rondeur, il y a un pain qui s'appelle la faluche, qui est un pain du Nord. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette faluche?
Alors, la faluche, le pain du Nord, que avant je cachais, parce que je suis fier de ma région, hein. Mais c'était un pain tout blanc, sans croûte, sans levain, à la levure. Donc, il n'y avait pas grand chose à raconter pour moi. Mais j'étais dans l'erreur de jeunesse, hein. Parce que vu la passion du levain, je parlais pas de levure, parce que la levure, tu l'achètes. T'es dépendant d'un levurier. Le levain, c'est la liberté. D'ailleurs, on appelle ça une fermentation sauvage, spontanée. T'es dans la liberté, t'es autonome. Et puis, t'es créateur presque, t'as une certaine prétention. On se dit créateur de la vie dans notre atelier, même si elle est déjà dans la farine. C'est juste la rencontre de la matière eau et farine, plus un facteur abstrait qui est le temps, qui va faire apparaître la vie dans le levain.
Le vin et la vie, c'est tellement proche.
Ah oui, mais c'est une vraie école. C'est une vraie école de il faut s'en occuper, le vin. Si tu lui donnes, il va te rendre. Si tu l'oublies, il va devenir rustique. Mais donc, pour revenir à la faluche qui a la levure, la faluche qui est rigolo, quand on la regarde, elle est toute blanche. Donc, on se dit, bon, c'est pas intéressant, il n'y a qu'une couleur. Ensuite, quand on appuie dessus, il n'y a pas de son, vu qu'il n'y a pas de croûte. Donc, il n'y a pas de bruit. Quand on la déguste, il n'y a toujours pas de bruit. Et quand on l'ouvre, elle est toute blanche encore. Donc, c'est blanc dehors, c'est blanc dedans. Mais c'est vraiment intéressant, parce que la levure, on va pas laisser d'empreinte aromatique. Il n'y a pas de croûte, donc il n'y a pas d'arôme de torréfaction, de cuisson. Il reste qui parle? Le froment. Et vu que le froment, c'est 75% d'amidon, l'amidon, c'est du sucre, ça révèle la sucrosité naturelle du froment. Et ça permet qu'il ne faut jamais oublier qu'on doit retrouver la rondeur du froment dans tous les pains, même au levain. Et c'est là mon erreur, pour rebondir sur mon discours de tout à l'heure, quand j'ai parlé le levain s'assoit sur le pain. Bah, quand il y a que le goût de levain, que je sens plus le froment, je suis dans l'erreur. Je suis tellement amoureux du vivant que le vivant s'assoit sur la matière. Donc on mange du pain, de levain. On va plus le qualifier pain de campagne ou baguette. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a que le levain qui parle.
Eh bien, on va écouter un pain avec du levain, avec l'accent du midi.
Monsieur le marquis, je crois que ça y est.
Ça sent bon.
Allez.
Et il est bien cuit. Oh, qu'il est joli ce chat. Il est à toi?
Eh oui, c'est Pompon. Vous savez, monsieur le marquis d'Azur Boulangerie, c'est nécessaire ça. Parce qu'avec les rails, vous mangerez tout le bénéfice. Alors, Pompon et sa femme Pomponette, ils m'économisent au moins 10 kilos de farine par jour.
Alex Croquet, vous avez un pompon et une pomponette chez vous?
J'ai un chat et un chien. Il s'appelle Charline. Ça ne pas pompon. Ouais. Mais pas dans l'atelier. Ouais.
Et alors, quand on fait craquer une baguette, alors là, c'est pas pareil, là.
Ah ben justement. Là, je fais craquer une baguette. Justement, il y a une réponse à la pression de ma main. Et justement, tous ces bruits, quand on mange une baguette, on s'écoute manger. Même si ça n'intéresse, on s'écoute dans que la faluche, on n'entend rien.
Et quand on rompt le pain, quand on rompt la baguette, qu'est-ce qui se passe?
Ben, quand on rompt le pain, à la main, déjà, c'est complètement différent qu'au couteau, parce que là, on est plus dans toutes les dimensions. Le couteau, ça choisit vraiment une partie du pain. On sent plus déjà la force du pain quand on le rompt à la main. On sent son élasticité, sa mâche. On est déjà en train de le déguster quand on le rompt à la main.
À quoi on reconnaît une baguette bien faite? Aux alvéoles?
Alors, maintenant, moi j'adore les pains très alvéolés. On appelle ça une mie arachnéenne. J'aime bien ce mot.
Oui.
Arachnéenne parce qu'avec des capillarités différentes. L'intérêt de manger un pain aéré, très aéré, et non ni d'abeilles, non régulier, c'est ce côté hétérogène de la mie qui va être intéressant dans la dégustation. Parce que manger un pain serré, je le fais souvent en démonstration, j'appuie sur du pain, je le serre très fort, je le donne à goûter aux gens. Les gens goûtent, et je dis, ils disent c'est moins bon. Je dis, pourtant le vide ne se mange pas, il n'y a que le plein qui se mange. Mais justement, quand le pain est aérien, c'est l'élégance de la dégustation. C'est comme monter un escalier, je touche, je ne touche plus, je touche, je ne touche plus. Et c'est ces temps d'absence de dégustation qui vont faire l'élégance du goût et le charme du goût.
Et cette mâche dont vous parlez, quand vous croquez le pain, qu'est-ce que vous mâchez?
Alors la mâche dans le pain, c'est souvent, quand il y a trop de mâche, c'est que je suis dans l'erreur. Quand il y a trop d'élasticité, c'est que j'ai donné trop de force. Il faut bien savoir que le pain se rappelle de tout. C'est une mémoire. De toute façon, le pain ressemble à une éponge. Vous mettez une boule de pain sur la table, c'est plein de trous, c'est mou. Vous mettez dans l'eau, ça capte l'eau, ça capte l'air. Une fois cuit, il ressemble toujours à une éponge et il reçoit son environnement. Mais cette éponge, il faut qu'elle ait une résistance, parce que c'est agréable, mais pas trop. Parce qu'un pain qui a trop de mâche, si on a trop façonné à la main, on donne trop de force, on va manger la force de la main. Si on n'a pas assez hydraté, qu'il y a trop de solide par rapport au liquide, on va manger la solidité du pain. Donc il va falloir faire un effort. Si on a mis au four un peu jeune, que le pain n'a pas pu s'ouvrir comme une fleur épanouie qu'on met au four, on va manger cette force qui n'a pas pu s'épanouir. Donc la mâche, c'est ça. Et c'est marrant une tartine, mais après on fatigue. Moi j'aime bien une certaine mâche, j'aime bien la réponse du pain à la mastication. De toute façon, c'est quoi une bouche? Elle est dense, c'est une machine à détruire des formes. Donc quand vous avez des formes et des résistantes différentes, c'est ça, vous sentez tout ça. Quand c'est rond, vous le sentez, quand c'est triangle, vous le sentez.
Mais Alex Croquet, quand vous écoutez Rému laisser encore son pain un peu dans le four pour que la croûte soit plus dorée, soit plus craquante, quelle est votre relation, vous, avec la croûte du pain?
À moi, la relation avec la croûte du pain, c'est déjà, je trouve qu'elle doit être diverse. C'est-à-dire que là, je regarde la baguette, je vois des ocres clairs, foncés, des jaunes, des blancs, des ferrés. Si je retourne, c'est ferré. Même la grigne de la baguette, qui est la signature du boulanger sur le pain.
Alors, la grigne, c'est ces virgules dessinées sur...
C'est les coups de lame sur le pain qui va l'aider à s'ouvrir. Et d'ailleurs, quand on fait une belle coupe sur une baguette, ce qui est beau, c'est que la peau se repose sur la baguette. Et en fin de compte, c'est le souffle de la baguette qui va au four avec la chaleur et l'eau qui va devenir vapeur, donc un gaz, et qui va ouvrir tout doucement la baguette au four. Et c'est ça qui va faire la diversité de couleurs. Si je coupe droit la baguette, elle s'ouvre avant d'aller au four. Et j'aurai une uniformité de couleurs et une uniformité de texture. Donc la croûte, c'est un jeu de couleurs, un jeu de texture, un jeu de bruit et un jeu de goût.
Alors la sole du pain.
Là, on retrouve la trace du four, on retrouve la trace de la pierre. Et là, c'est le côté, là on voit qu'il y a des notes ferrées. Ça, c'est la force du four, ça c'est le contact. Là, c'est le pain au contact. C'est pour ça que c'est ce contact qui va donner une certaine violence.
Alors au contact avec quoi?
Avec la sole du four, la pierre du four.
Mais alors, c'est d'elle dont je voulais vous parler, de votre pierre.
Ah, alors la pierre du four, bon, le problème quand je vais en vacances, c'est que je fais mon pain, je pars avec mon levain, ma farine, et je pars avec ma pierre. Comme ça, si j'ai un four, je ne vais pas citer une marque modeste, on va dire, cette pierre va tout rattraper. Parce que je pose la pierre dans le four. J'ai une organisation qui est assez... Je pétris mon pain la veille pour ne pas créer de... Je me lève tôt. Il fermente toute la nuit. Et le matin, vu que je me lève tôt, je façonne mon pain. Il faut bien savoir, un pain, quand il est façonné, il met à peu près une heure à une heure et demie pour pousser. Ça s'appelle l'après. J'allume mon four dès ce moment. Je pose ma pierre dans le four et pendant une heure et demie, la pierre va recevoir les 250 degrés que j'ai réglés. Elle va se gaver de cette chaleur et quand mon pain sera poussé, je vais le retourner, je vais le poser sur cette pierre et cette pierre, elle va donner la chaleur comme un coup de pied parce que la chaleur vient de loin, elle s'est inscrite dans la pierre, ça s'appelle l'inertie. C'est les fours à bois, c'était ça, hein. C'était le four maçonné qui avait accumulé la chaleur puis d'un seul coup qui la rendait parce qu'il y avait de la masse dans la chaleur.
Pour grigner votre baguette, vous faites ça avec un couteau particulier?
Alors, à l'atelier, non, à l'atelier, je fais tout. Bon, ça s'appelle des grignettes, enfin, c'est des lames de rasoir que je mets sur un stylet qui est étudié pour et qu'on change assez souvent parce que j'ai des pains quand même avec, qui sont un peu rustiques.
Et quand vous entendez Chevalier Laspalès parler d'artisan boulanger, ça vous fait rire ?
Ah oui, ça me fait rire parce que c'est une époque où il y a eu un développement mais de sortes de pains. Il y avait les pains bûcherons, les pains pharaons, les pains... Les noms étaient incroyables.
Non mais attendez monsieur, je ne suis pas dans une boulangerie ici ?
Ah non monsieur, ici il n'y a pas de boulangerie. Ici vous êtes dans un atelier du pain.
Ah oui, et vous n'êtes pas boulanger ?
Non, je suis maître boulanger.
Ah oui, vous avez un label comme les poulets.
Vous êtes ici, monsieur, chez un maître boulanger artisan de France, fabricant agréé, farine complète, label moulin de pays, cuisson four en bois à l'ancienne.
Vous voulez dire four à bois ?
Non, four en bois, comme chez les Gaulois.
Ah, et le four ne prend jamais feu ?
Si, justement. Et les copeaux de cendre retombent dans la pâte avant qu'elle soit cuite.
Et c'est pas mauvais pour la santé, ça, le bois brûlé ?
Au contraire, le charbon est très bon pour la digestion et restitue le goût authentique du blé récolté avec l'âne et le bœuf.
Alors, vous avez du blé récolté avec l'âne et le bœuf, Alex Croquet ?
Non, j'ai un meunier pour ma farine, la belle rouge qui est plus gros, qui est plus... Après, j'ai beaucoup de petits meuniers qui font spécialiser, par exemple, pour mon épeautre, non hybridé, bio, mon engrain. Alors justement, on parlait tout à l'heure de l'alvéole du pain. L'engrain, lui, fait une alvéole constamment régulière, fait un nid d'abeilles. Il est très complexe en parfum, attention. Mais au niveau de la texture, il est linéaire. C'est un peu ce qui me gêne. Je suis plus épeautre, parce que l'épeautre fait une mie plus sauvage, plus arachnéenne. Et l'engrain, qui est le petit épeautre, il fait une mie qui est très belle. C'est beau, parce que c'est ce côté presque parfait de la mie qui se répète. Mais c'est vrai qu'au niveau dégustation, on est dans une continuité.
Et comment on arrive à garder du grain sans pesticides ?
Alors le grain sans pesticides, ça c'est une histoire, une anecdote. Un jour je rencontre un ingénieur qui s'appelle, je vais citer son nom, monsieur Peretti. Et ce monsieur avait mis au point un système de conservation du grain sans insecticides. Il pompait l'air froid de la nuit et il la redistribuait le jour. Il faisait descendre le grain en dessous de 15 degrés. Donc en fin de compte, les œufs sont autour du grain, mais vu qu'ils sont pas une température suffisante pour éclore, les insectes n'arrivent pas autour du grain, ils ne peuvent pas le consommer, ils ne se développent pas.
Et je vous ai présenté Alex Croquet comme chercheur en pain, fou de pain et chercheur en pain, mais on le voit en permanence, c'est votre passion, c'est pas tricher.
Ah oui, mais mes yeux s'ouvrent, c'est je pense pain. C'est quand je bossais sur le Pantone à un moment, c'est une fermentation qui m'intéressait parce que j'allais souvent faire du pain en Italie. Mais je voyais le vin vivre dans l'eau. Pourquoi il vit dans l'eau ? Ah, on l'épluche comme une pomme. Pourquoi on l'épluche ? S'il est dans l'eau, il est moins en contact avec l'oxygène. Donc il est moins agressé par l'oxygène. L'eau le protège, même s'il y a de l'oxygène dans l'eau. On prend plus le cœur du levain. Et j'essayais de comprendre tout le schéma. Et pourquoi, justement, on fait une brioche pure levain. C'est ça le Pantone, hein, c'est une brioche pure levain, si on ne triche pas. Et ça a une énergie, ça fait des brioches qui ont un volume exceptionnel, qui ont une conservation exceptionnelle, et qui ont un goût d'un fruit incroyable. Je ne parle pas des fruits qu'on met dedans, je parle du fruité du levain. Ben ça m'a, ces 3 ans de recherche dans mon atelier a changé un paramètre chaque semaine, parce qu'il faut 3-4 jours pour lancer un Pantone, avec un levain entretenu dans l'eau. Et donc ça demande un travail en amont colossal pour arriver à un jour de cuisson. Et ça, je peux faire ça pendant 1 an ou 2 sans le vendre.
Et est-ce que le chercheur que vous êtes fait du pain sans gluten ?
Non, parce que alors... On me pose souvent la question des naturopathes et ou plein de gens qui sont dans des métiers en relation avec le pain sans gluten. Honnêtement, je vais pas. Moi, j'adore façonner. On façonne tout à la main. Je vais pas toucher la pâte parce que du pain sans gluten, souvent on le fait très hydraté. On le fait en moule. Donc j'aime pas trop les pains en moule en plus parce que c'est un pain qui vit enfermé, qui fait pas une belle croûte, qui est uniforme. C'est pas des vrais pétrissages parce qu'il y a pas de gluten. Il n'y a pas une expression au four très généreuse parce qu'il n'arrive pas à mémoriser ce que j'expliquais tout à l'heure, la respiration du pain. Donc, si je le fais, ce sera un pain à liquament pour les gens qui ont des problèmes, évidemment. Mais j'aurai pas un plaisir. Ce sera un acte, ouais, parce qu'il y aura une niche commerciale. Je peux peut-être la prendre si j'ai, voilà, on veut dire si voilà, ça serait peut-être bien d'en faire. Mais j'avoue que c'est pas un pain où j'aurai un plaisir. Je me sentirai un petit peu pharmacien du pain.
Mais vous ne pensez pas que si les semences étaient plus naturelles, il n'y aurait pas ces problèmes
Alors moi, on m'a déjà posé la question. Alors J'ai pensé à quelque chose. Je sais qu'on hybride beaucoup les blés chaque année pour améliorer les performances du blé. Comme par exemple faire des pailles courtes. Pour moissonner, c'est plus simple. Si le blé ne verse pas, c'est-à-dire ne se couche pas dans le champ, il ne va pas germer. On sait bien qu'un blé qui germe sur pied va devenir diastasique. S'il est diastasique, il se transforme sur le champ alors que c'est le boulanger qui doit le transformer. S'il se transforme avant moi, j'ai du mal à faire mon pain. Je ne rentre pas trop dans la technique.
Non, mais c'est plus que de la technique.
Mais c'est pour expliquer un petit peu.
Non, mais c'est important.
Et on sait très bien qu'une farine qui a démarré sur le champ va contaminer tout le reste des grains. Hein. Donc après, nous, on a beaucoup de difficultés. On a des pains qui sont rouges, on a des pains qui ne développent pas, on a des pâtes qui collent. Donc ils ont beaucoup travaillé sur le blé pour améliorer tout ce travail du champ. Et aussi, il faut bien savoir qu'un sac de farine, c'est les 7 mercenaires. Hein. On prend une farine de force, on prend une farine de souplesse, on prend une farine de goût. Et chaque céréale qui reste du blé va apporter sa performance et va pour obtenir une qualité de force. Donc on a cherché à améliorer les blés et je pense qu'on a tellement amélioré les blés qu'on a accéléré la transformation des blés par rapport à nous, on ne s'est pas transformé à la même vitesse. Et je pense que c'est peut-être que notre corps ne comprend pas bien les nouveaux blés. Ils ont été transformés plus vite que nous. Il aurait fallu qu'on se transforme à la même vitesse.
Oui, ce qui est un peu difficile. Il n'y a pas des chercheurs en humains qui sont aussi performants qu'Alex Croquet. Alors, est-ce que vous avez déjà été dans une boulangerie où le boulanger était Fabrice Lucchini?
Ah, le fameux film, Madame Bovary.
Gemma Bovary.
Ah ben surtout Lucchini, qui est un personnage, un acteur assez démonstratif. C'est vrai que j'imagine comme boulanger qui nous ferait un pain très... C'est les pains que j'aime, en fin de compte, très extravertis. C'est ça, moi j'aime bien les pains extravertis.
Là, vous allez voir, ils jouent moins extravertis.
Ah. Oh. Excusez-moi, monsieur. Celui-ci, c'est quoi?
C'est graine de tournesol. C'est une de mes spécialités.
Je prends le sunflower. Je
vous cherche le
tournesol. Et ça, c'est quoi?
C'est la croquinette. Multicéréales. Mais je vous recommande plutôt celui-là. C'est plus doux. C'est... à la graine de lin.
Je prends les tous.
Si je peux me permettre, on dit je les prends tous. Ou je prends le tout.
Oh, le tout. OK. The lot.
All of them.
Yeah.
Cette sensualité du pain, vous faites du pain de lin?
Non, je ne fais pas de pain de lin. Mais c'est vrai que la sensualité du pain, la première chose d'un apprenti quand il arrive... même au bout d'un an, ça dépend. C'est apprendre à toucher le pain. Ils comprennent pas. Et des fois, nous, ça, avec le métier, je dis, tu sens ça, la pâte, le relâche. Oh, je sens rien. Tu sens le pain, il y a trop attendu avant d'aller au four. Il répond plus à la poussée d'un doigt sur la pâte. Hein. Il y a plus de réponse. C'est très long. Même le façonnage, hein. Savoir s'arrêter de serrer, garder la première peau. Le pain, c'est l'école de la sensualité. D'ailleurs, je leur dis toujours, au début, tu touches le pain. Et quand c'est la pâte qui te touche, t'as fait un grand pas. Parce que là, il y a une interaction entre les deux. Autrement, il n'y a que toi qui domine la matière. Quand tu commences à avoir des informations dans ton façonnage, tu sens j'appelle ça la peau, mais la pâte.
Oui, c'est la peau.
La peau, parce que c'est la première peau qui... C'est comme nous. Hein. Quand vous êtes violent dans la pâte, vous allez libérer l'eau de la pâte. Comme moi, si je suis violent en vous touchant le bras, je peux faire saigner ou même souvent, je me montre à quelqu'un, quand je suis à l'étranger, j'appuie sur son bras pour atteindre l'os sans violence. Et j'atteins l'os, et je peux appuyer très fort, et toucher l'os et faire mal. Dans le pain, bien sûr, il n'y a pas d'os, c'est bon mieux. Mais il faut essayer d'être dans un mouvement constant, et de ne pas être trop violent, et on utilise beaucoup moins de farine. De toute façon, on dit un bon boulanger, dans le temps, il utilise peu de farine. On est mauvais, on fait craquer le pain, on libère l'eau, même la brioche, et on farine tout le temps pour empêcher que la pâte colle. Et quand on est délicat, on met très peu. Moi, il faut que les gars, on rigole, mais je peux façonner sans brioche, sans jamais utiliser un morceau de farine. Parce que j'ai une façon de façonner la brioche qui la tire vers le ciel, alors qu'eux, ils utilisent la table pour façonner. Ils utilisent l'écrasement. Donc la table est un soutien, mais on doit façonner en élevant la matière. Donc elle s'élève, donc elle ne touche pas. Donc elle est dans un espace au-dessus de la main. Et d'ailleurs, ça se voit au four. Hein. D'ailleurs, ils aiment bien voir ça. C'est beau à voir. Hein. Et ça, c'est l'école de la sensualité. Et c'est le regard. Hein. Sans le regard, rassemble tous les sens. Hein. À un certain stade, rien qu'un d'un regard, sans toucher la pâte, je la touche. Quand elle pétrit, je vois qu'elle est pétrie. C'est ça qui. Ça, c'est un stade à passer.
Et quand vous écoutez Offenbach, hein, quand vous écoutez Reynaldo Hahn qui joue et qui chante La boulangère à des écus, ça vous crée une émotion particulière?
Alors moi, ce que j'aime bien dans Offenbach, c'est que c'est une musique bondissante, quoi. C'est bon, c'est sûr que quand je mets ça dans mon atelier, mes gars sont pas fous. Mais je pense que la pâte aime bien, parce que comme la rivière quand elle fonctionne, c'est bondissant, c'est joyeux, c'est une mélodie, l'eau crée une mélodie qui est un bras de rivière dans mon atelier, hein, je trouve qu'il y a des musiques qui correspondent à l'eau, qui sont bondissantes, comme le concerto pour cor classique de Mozart, que j'ai l'impression d'entendre ma rivière. C'est sautillant, c'est bondissant.
Les charbonniers, les fariniers ont le même sac, le même grand chapeau. Les charbonniers, les fariniers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais pour celui qui sait bien voir, il y a un détail très important. Il y a un détail très important. C'est que le charbonnier est tout noir, et que le farinier est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Les fariniers sont bons enfants, tout blanc. Oui, le farinier est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc.
Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Vous arrivez d'être tout blanc, tout blanc, tout blanc.
Vous savez que chez les compagnons, un boulanger, c'est un chien blanc. On l'appelle le chien blanc, oui. Bon, on est tout blanc parce qu'on part la nuit, on rentre la nuit. On est plein de farine, on voit pas le soleil. C'est pour ça qu'on... Bon, moi, en étant rouquin, c'est sûr que je suis naturellement blanc. Mais... Donc voilà, quoi. Mais... Donc, dans le pain, ce qui est beau aussi, c'est que j'ai approché... j'ai eu des révélations, hein, j'aurais pu les dater. Et quand j'ai une révélation, ça me nourrit pour la semaine, hein, voire plus. Et un jour, je suis devant ma rivière en train de réceptionner l'eau dans un récipient. J'ai mon pétrin à bras plongeant qui pétrit. J'ai un bout de pâte sur la table. Mon atelier est tout en longueur. Et je regarde. Un peu absent comme ça, mais c'est souvent quand on est absent qu'on va à l'essentiel, quoi. On se libère des choses qui ne sont pas importantes. Et... Donc, je suis là un peu absent, regarder l'eau couler. Et puis, je regarde le pétrin, je trouve ça beau. Et je me dis, mais bien sûr. Alors que j'avais vachement bossé sur l'eau, toutes les théories sur l'eau, la dynamique de l'eau, le mouvement, la structuration de l'eau, les clusters. Enfin,
les clusters, qu'est-ce que c'est?
C'est des associations gazeuses. Donc, on disait qu'une eau dynamique était une eau trimère. Elle drainait mieux, donc ça, c'est la force. Et la troisième partie de l'eau, c'était son bras armé. Elle scindait la matière et la rendait subtile. C'est beau, hein?
C'est très beau.
C'est très beau. Et donc, en regardant tout ça, je me suis rendu compte, mais je me dis, l'eau fait des vortex. Les vortex, c'est la force centripète, c'est des forces froides, les forces de la nature. Mon pétrin a un mouvement planétaire. La pâte, quand on la pose sur la table, s'exprime à 360 degrés, parce qu'elle n'est pas dans la volonté de faire une baguette, nord-sud ou est-ouest, comme on veut. Un pain, il fera un pain rond, il fera jamais une baguette. C'est sans contrainte, justement, et s'exprime dans l'harmonie. L'alvéolation, la mémoire de la respiration du pain, c'est de la rondeur. La boucle aromatique, c'est l'expression complexe que j'expliquais tout à l'heure.
Et vous dites que le pain a des qualités aromatiques supérieures au vin.
Au niveau des volatiles, référence de l'INRA, une vieille lecture, ils avaient remarqué plus de 200 arômes volatiles dans le pain. Donc bien plus que dans le vin. C'est ça qui est difficile quand on sent du pain. Quand j'explique, je dis, vous sentez, il y a tellement de parfums. Puis c'est des parfums serrés les uns côté des autres, ils se donnent la main. Donc on a du mal à les séparer, ils sont les uns côté des autres. Et c'est ça qui est intéressant.
Et on n'a pas envie de les séparer d'ailleurs.
Ah ben non, c'est ça aussi qui fait, qui enlève les saillants, les dominants, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le levain. Il ne faut pas que ce soit une autoroute aromatique, il faut que ce soit des petits chemins. C'est plus intéressant.
C'est de toute façon des petits chemins, c'est toujours plus intéressant. Merci, merci infiniment Alex Croquet d'être venu de Wattigny.
Hein, oui.
D'être venu de Wattigny en train pour nous parler du pain. Et j'espère que vous viendrez nous parler un jour de brioche ou...
Ah oui, la brioche, c'est aussi passionnant. Je dirais que c'est même le Pantone qui m'a permis de mieux faire mon pain, mieux faire la brioche.
Bah écoutez, je suis impatient de vous entendre parler de la brioche. Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Attention, vous. Hein. 3, 4... Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Claude Niort et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez aussi la podcaster, la télécharger pendant un an sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal.